Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
J'ai rencontré Tanguy Viel, l'auteur de La fille qu'on appelle, avec les élèves de seconde de Madame Bois et mes premières au lycée Estournel de Constant à La Flèche. Cette rencontre a été organisée par Bernard et Brigitte Martin dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire. Deuxième partie de la rencontre avec Tanguy Viel, l'auteur de La fille qu'on appelle. Vous n'entendrez pas toutes les questions posées par les élèves parce qu'ils étaient éloignés du micro. Vous entendrez alors ma voix qui pose ces questions. Avez-vous aimé écrire ce livre ?
Est-ce que j'ai aimé l'écrire ? Est-ce qu'on aime écrire ces livres ? C'est vrai, c'est une bonne question. Moi, je suis un peu, comment dirais-je, bipolaire serait un peu fort, mais je veux dire, je passe quand même par des phases d'euphorie et de gouffre quand j'écris. Donc, par exemple, ce livre-là, j'ai passé 2 mois super excité à beaucoup écrire très vite certaines scènes, avec beaucoup de facilité, les choses qui venaient, etc. Puis je suis arrivé à peu près à avoir écrit presque les 2/3 du livre. Ils n'étaient pas complètement finis, mais quand même, ça commençait à ressembler à quelque chose. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ce livre ? Ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche, cette histoire m'en fiche. Enfin, un moment de... Comme si les commutateurs se mettaient en off, quoi. Vraiment, c'était très étrange. Ça, c'est difficile à comprendre, c'est qu'on subit un peu les états d'âme quand on écrit. Aussi bien avoir une idée, c'est miraculeux, c'est-à-dire se dire « Ah, enfin, j'ai envie d'écrire quelque chose, enfin, je sais quoi. » Puis en fait, 2 mois plus tard, pouf, ça s'éteint. Là, j'ai passé 3 mois, j'ai laissé tomber le truc, complètement. J'étais même... Parce que je suis toujours un peu excessif, comme c'est difficile de ne pas l'être. Donc c'était « Non, bien sûr, je finirai jamais ce livre, je ferai plus de romans. » Ça fait rire Bernard, parce que ça fait 10 ans que je dis que je ferai plus de romans. Et ça fait... Entre-temps, j'ai dû en écrire 3, quand même.
Oui. Et des essais aussi.
Des essais aussi, mais c'est vrai que le roman revient régulièrement. Et là, bon, ça n'a pas raté. Au bout de 3 mois, j'ai relu ce que j'avais fait et j'ai trouvé que c'était pas si mal. Et là, je me suis relancé dedans et j'ai retravaillé. C'est un livre que j'ai écrit très vite, en fait. Alors. Donc, aimer, c'est pas le mot, c'est plus... Quand j'étais dedans, j'étais à fond. Quand j'étais pas dedans, j'étais pas dedans. Mais à la fin, en quelques mois, il s'est fait. Après, c'est vrai que peut-être je l'ai moins. C'était moins l'état de grâce que pour d'autres. Enfin, chaque livre, en effet, après, peut être associé à une certaine joie ou une certaine confiance dans le projet. Là, j'ai quand même été toujours un peu. Je sentais bien que j'étais un peu. Soit j'y croyais trop, c'était presque pas normal, soit j'y croyais plus, donc c'était compliqué. Voilà.
Nous l'avons vu comme l'histoire d'une fille qui tombe dans un piège, mais Bernard Martin y a vu l'histoire d'un père. Qu'en pensez-vous ?
D'un père.
Ah, j'ai plutôt parlé du père, moi,
ouais.
Que de la fille.
Quand tu nous as présenté, tu nous as dit c'est l'histoire d'un père. Et
ah oui, carrément.
Les élèves qui l'avaient déjà lu ont dit « Ah mais non, c'est pas vrai ouais. ». Et puis après on a dit « Mais si c'est vrai, en partie ».
Ben oui, quand même c'est vrai en partie. C'est d'autant plus vrai que là il faudrait revenir sur la fabrication du livre lui-même, c'est-à-dire avant même d'avoir l'idée de ce livre-là, j'avais commencé un autre roman, 1 an plus tôt, qui était un roman sur un boxeur, mais qui n'avait rien à voir. Hein. C'était vraiment une histoire très un peu à l'américaine. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des films de boxe, mais voilà, un peu avec des histoires de matchs truqués, de managers. Ça me plaisait beaucoup d'essayer de fabriquer un petit, comme une sorte de film américain dans le monde de la boxe. Et ce projet-là, ben, sur la question des projets qui tiennent ou qui ne tiennent pas, c'est pareil, au bout de 2 mois, il s'est écroulé. Mais alors là, beaucoup plus... Je veux dire, j'avais beaucoup moins avancé que dans La fille qu'on appelle. Et j'ai senti que là, par contre, que ce n'était pas un projet de roman pour moi, désormais. Quoi. Donc bref, j'avais des morceaux de ce roman de boxe, avec ce personnage de père, enfin, qui n'était pas encore père, qui était juste boxeur, mais qui existait déjà avant. Donc c'est vrai que, quand j'ai commencé La fille qu'on appelle, bien sûr... J'ai quand même décidé de faire un livre sur l'histoire de cette jeune fille avec le maire. D'ailleurs, le premier titre provisoire, c'était La jeune fille et le maire. Juste comme ça pour moi, dans mes fichiers personnels, quoi. Et donc, c'est pour répondre, déjà, ça veut dire que le nerf de la guerre, c'était quand même l'histoire de Laura. Et d'ailleurs, à la fin, si ça s'appelle La fille qu'on appelle, c'est parce que j'ai quand même choisi que ce soit elle qui occupe le centre de l'affaire et que, à certains égards, l'histoire du père soit quand même comme une histoire satellite, mais satellite très proche. Et c'est vrai que, en même temps, dans le livre, si on prenait le nombre de chapitres et tout ça, c'est presque à égalité, les deux histoires. Comme en montage parallèle. Et puis dans la deuxième partie, d'une certaine manière, c'est presque plus l'histoire du père. C'est l'histoire de son passage par la folie, et, ou en tout cas par l'abandon et la reprise. Mais comme ça tourne autour d'elle, évidemment, ça, pour moi, ça reste elle le centre de gravitation quoi, du livre. Et puis peut-être que pour moi, là pour le coup, rattrapé par ce que je suis moi, c'est-à-dire un homme de bientôt 50 ans, père, justement, ma fille a 18 ans, donc ça fait beaucoup de choses qui, sans doute même inconsciemment, ont pu travailler le fait que cette figure de père me... Sans elle, en fait, le roman n'aurait pas beaucoup de sens non plus.
Ben oui.
Si c'était que l'histoire il manquerait quelque chose vraiment, je crois.
Oui, parce que le piège, en fait, ils y vont tous les deux.
Ils y vont tous les deux, et c'est vrai même que je me souviens bien du moment où le livre s'est... où j'ai senti que je tenais le nœud du livre, c'est quand même le moment où j'ai compris que le père, en étant le chauffeur du maire, était celui qui mettait sa fille sur... Oui. Et que s'il n'y avait pas ce nœud-là à trois, là, avec la culpabilité du père, d'avoir... Enfin, culpabilité tardive, puisque le temps qu'il se rende compte, etc. Donc son aveuglement, d'abord, ça ne marcherait pas. Enfin, si, mais ce serait un autre livre, quoi.
Oui, ce qui est fort, c'est ça. Mmh. C'est que le père, il livre sa fille sans le savoir.
Ben ouais. C'est vrai que j'ai senti vraiment que là, je tenais quelque chose au sens tragique du terme, aussi. Il y avait un effet c'était un peu Oedipe, quoi. Il y avait un nœud comme ça, compliqué. C'était marrant parce qu'il y a eu pas mal de... Tu te souviens, toi, t'étais pas là à Nantes quand on avait fait la rencontre ?
Non.
Ah non, c'est pas venu. Ouais. Ah, c'est vrai. Parce qu'il y a une psychanalyste dans la salle. Il y a souvent eu des psychanalystes dans les rencontres que j'ai faites en librairie autour du livre. Et alors, j'ai reçu un nombre d'interprétations sur les relations entre le père et la fille, etc. Et jusqu'à Nantes, cette psychanalyste qui disait, en fait, le désir inconscient du père, qui est en fait de coucher avec sa fille, donc c'est donc qu'il couche, c'est lui qui veut qu'elle couche avec le maire, mais il le sait pas. Bon, c'est la psychanalyse, hein, mais... C'est violent, hein, c'est violent.
C'est violent, ouais.
C'est violent, mais quand on entend ça, on se dit... Qu'est-ce qu'on connaît de tout ce magma de compliqué de... Voilà.
En tout cas, c'est un...
Ouais, en fait, ce qui est chouette, c'est quand on entend une interprétation comme ça, moi, mon problème, c'est pas de dire vous avez tort, vous avez raison, c'est juste de me dire si les personnages sont assez complexes ou assez épais pour pouvoir permettre ce genre de projection ou d'interprétation, c'est gagné. En quelque
oui,
sorte.
Pour qu'on débatte, qu'on ne soit pas d'accord.
Oui, oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est des êtres... Oui. C'est aussi compliqué que dans vivants. La vie en vrai, quand on est là, à se dire mais qu'est-ce qui a motivé machin à faire ça, etc. Quoi.
Pourquoi décrivez-vous le quotidien des personnages ?
Je suis en train d'essayer de réfléchir si j'ai vraiment décrit beaucoup le quotidien des personnages. C'est marrant, ça, parce que... Moi, je suis tellement obsédé par quand même les... En fait, je fais pas de scènes qui servent à rien dans mes romans. Dans ce roman, en tout cas, il n'y en a pas. C'est-à-dire que toutes les scènes font avancer l'intrigue. Et donc, j'ai jamais l'impression de faire des choses qui seraient, par exemple, d'écrire le quotidien au sens... les mettre dans la vie normale. Parce que, peut-être je confonds là le quotidien avec l'ordinaire des jours, quoi. Mais peut-être... Ce qui peut donner cette impression-là, c'est que quand je suis dans une scène, par contre, j'essaye d'être dans les détails de la scène. Donc j'essaye de vivre chaque instant de la scène, pour la rendre vivante, là aussi, pour essayer aussi de voir qu'est-ce que c'est qu'une sorte de vérité émotionnelle, si on peut dire, de ce qu'on vit dans un moment donné, qui plus est un moment un peu tendu, par exemple la rencontre avec le maire, ou par exemple la préparation d'un combat de boxe, ou je sais pas. Donc, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai envie de dévier ta question en disant ce que tu prends pour une attache du quotidien serait pour moi plutôt une attention aux détails qui évidemment habite notre quotidien, mais donc une manière de s'intéresser, par exemple, même dans une scène un peu tragique, à la poussière qui traîne sous un meuble. Enfin, j'exagère un peu, mais une façon de considérer que dans toutes les situations de l'existence, et même les plus dramatiques, à un moment, ce qui en fait la matière émotionnelle, et donc après ce qui va en devenir aussi la mémoire, ça peut être des choses, c'est un espèce de magma de sensations, et que le travail de l'écriture, c'est en partie d'essayer de redéplier ce magma pour le redonner à penser et d'une certaine manière à vivre aussi, c'est-à-dire à traverser l'expérience d'eux. Et sans doute que... Enfin, moi, je crois que je mets beaucoup de travail là. C'est-à-dire, par exemple, pour écrire... Mettons que je pense à... Quand tu me dis ça, je ne sais pas pourquoi je pense à la scène dans le bureau du maire. Ou les scènes dans le bureau du maire. Enfin, non, il n'y en a qu'une, parce qu'après, il va dans la chambre. Mais... En tout cas, les scènes entre Laura et le maire. Et c'est vrai qu'elles sont longues, enfin, elles sont détaillées. Et ce que j'essaye de faire, c'est presque faire un ralenti de ce qui se vit dans dans la tête des personnages, etc. Ce qui est difficile, parce qu'au fond, je pourrais le tenir en quelques mots très abstraits. Je pourrais dire « elle a peur ». Je pourrais juste employer des mots... Et au lieu de dire « elle a peur », ben, je préfère essayer d'imaginer presque comme une sorte d'animal. Qu'est-ce que ce serait la peur? Comment ça se dit? Comment ça se joue la peur? C'est-à-dire, quelle est la perception qu'on a du réel quand on a peur, par exemple? Comment les choses se déforment? Comment les choses paraissent plus grosses ou certaines choses plus petites? Comment le regard se crispe sur quelque chose? J'ai appris ça, par exemple, récemment sur les girafes. Je lis beaucoup de trucs sur les animaux, mais surtout en ce moment, j'adore ça. Mais par exemple, pendant longtemps, les premières girafes qu'on a fait venir en France, au 19e siècle, qu'on présentait dans les... On les trouvait super cool parce qu'en fait, elles ne bougeaient pas. Elles étaient... On se disait, bah, c'est formidable, elles s'adaptent. Et en fait, on a appris bien plus tard que, grâce un peu aussi à la biologie et tout ça, qu'en fait, c'est leur mode, c'est le mode panique de la girafe, c'est de ne plus bouger. Ce qui est intéressant d'ailleurs, même par rapport aux êtres humains, parce qu'il n'est pas exclu qu'un certain nombre de choses, de situations... dont celle de la domination psychique, ça a à voir avec ce qu'on appelle dans ces cas-là aussi la sidération, c'est-à-dire l'instant où on ne sait plus quoi faire, et surtout on ne sait plus dire non. Alors comment on transforme ça? Cette chose qui ne passe par rien, ben moi j'essaye de penser comment le réel à ce moment-là se présente, et comment cette panique peut se distribuer dans les choses pour nous les transmettre, quoi, pour qu'on les habite un peu, quoi, qu'on les comprenne, et que si possible qu'on ait un peu de, je sais que c'est un mot à la mode, mais quand même un peu d'empathie dans l'épaisseur d'elle, quoi.
Vous êtes-vous inspiré de l'écriture de Marguerite Duras pour écrire votre roman?
Je devrais te renvoyer la question. Est-ce que c'est ton sentiment en lisant le livre?
C'est un petit peu moi qui les ai orientés.
Ah bon?
On a lu un extrait de L'Amant.
Ah oui, quand même, en lisant un extrait.
Oui, et parce qu'en fait, ils ont trouvé que l'écriture a été à la fois très détaillée, en même temps presque sans affect. Voilà. C'est-à-dire qu'on parle de choses qui sont très, très, très douloureuses, mais en même temps, il y a... Justement, c'est des personnages en même temps, voilà. Et je leur ai dit, ben, en fait, dans L'Amant, la scène de la rencontre qu'ils ont lue, je trouve qu'il y a la même chose. Il se passe à la quelque chose de terrible, en réalité, dans cette rencontre, que j'ai mis, moi, du temps à comprendre. Et c'est aussi comme ça, c'est « Regardez-moi, je suis un personnage ».
Oui, oui. Alors, ben, je peux partager cette art poétique, on pourrait dire, que celui de Duras, c'est-à-dire celui de créer une certaine distance. Alors, bon, il ne faut pas que je sois trop théorique, mais au fond, c'est une certaine littérarité. C'est-à-dire une manière de penser l'espace de la langue comme un espace un peu artificiel, et volontairement artificiel, et le lecteur ne doit pas être pris en otage des sentiments, il doit pouvoir... à la fois traverser les situations affectives et en même temps presque pouvoir réfléchir ou sentir que quelque chose là-dedans est du théâtre, est faux. s'il n'a pas cette petite distance-là, il manque quelque chose. Après, sur les moyens d'y arriver, par rapport à Marguerite Duras, il me semble que Marguerite Duras n'est pas du tout lyrique. En tout cas, elle n'utilise pas, par exemple, l'adjectif, elle n'utilise pas la métaphore, comme moi je le fais. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, je pense que j'aurais plus l'impression, s'il fallait prendre des références, que mon travail, là, on doit plus à Proust qu'à Duras. C'est-à-dire... et peut-être là aussi, et créer presque, je dirais, moins de distance justement que Duras. Chez Duras, il y a de l'émotion, mais c'est vrai que c'est une émotion qui est très économique, très abstraite aussi. Et comme vous dites, par exemple, cette situation dans l'amant, vous avez mis du temps à comprendre que ça veut dire qu'elle n'est pas donnée dans son. Moi, je pense que je suis plus, entre guillemets, généreux dans la façon de donner au lecteur quand même. À peu près les clés, je le laisse pas trop. Après, ça reste. Alors, le point commun, c'est que ce sont des écritures intellectuelles, je pense. C'est-à-dire des écritures qui réfléchissent en même temps qu'elles écrivent, je crois, et qui réfléchissent à ce qu'elles écrivent. C'est difficile d'expliquer ça. Hein.
Mais c'est passionnant.
C'est difficile de le dire simplement, en plus.
Mais c'est pas qu'une. En fait, ce que je leur disais, c'est que, en fait, il y a. Dès le début, dans l'écriture de ce qu'on a appelé le nouveau roman, il n'y a pas de surprise, quoi. Il n'y a pas vraiment le schéma narratif habituel. Ce qui est raconté, c'est après la crise. On revient sur la crise. Il y a vraiment ça, là, dans La fille qu'on appelle.
Tout à fait. C'est un peu de l'analyse, en quelque sorte. Ça. L'analyse psychologique, si vous voulez. C'est vrai que c'est pour ça que, par exemple, j'avais besoin d'un narrateur à la troisième personne. D'habitude, j'écris mes romans à la première personne. Et là... Pour celui-là, j'ai senti que ça ne marchait pas, et je pense que c'est parce que j'avais besoin de toute l'intelligence d'un narrateur, une intelligence que n'a pas le personnage. Parce qu'un personnage, il est dans la situation, il est un peu... Par exemple, Laura, avec toute l'intelligence qu'elle pourrait avoir, elle est quand même... c'est comme si on la mettait dans une boîte et qu'on la secouait pendant tout le livre, quoi. Donc elle n'a pas les moyens, analytiques, intellectuels, elle n'a pas le recul, elle n'a pas la sérénité pour pouvoir raconter son histoire... avec la distance qui convient et pour pouvoir analyser les faits. Donc j'avais besoin de ce narrateur pour ça, c'est vrai. Et alors est-ce que c'est un... Comment dire ? Enfin, ça m'intéresse cette question de Duras parce qu'elle est cruciale. Parce qu'en fait, quand on regarde les choses, on pourrait dire souvent, bon, si on écrit un roman qui se passe dans le 19e siècle, c'est écrit à la manière de Balzac. Un roman qui est écrit après 1945, il est forcément écrit à la manière de Duras. Parce que Duras, elle a touché un point de... Mais, comment vous dire ? Non, parce que je voudrais vous expliquer juste ce truc, c'est qu'est-ce que c'est que réfléchir en écrivant ? C'est juste considérer que la réalité est un fait suffisamment complexe pour que le langage courant, le langage de tous les jours, ne suffise pas à l'élucider, à le résoudre. Voilà, c'est juste ça, en fait. Et peut-être, notamment dans un livre comme celui-là, en prenant un cas de figure, un phénomène aussi compliqué que celui d'une relation psychique complexe entre une jeune fille et un maire, un rapport de domination, etc., qu'est-ce que vous avez ? Vous avez soit un journaliste qui fait la relation des faits dans un journal, après vous avez la justice, qui peut utiliser les lois pour essayer de dire « ça c'est le mal, ça c'est le bien, on va le condamner à tant de mois, etc. Oui, vous l'avez violé, non, vous l'avez pas violé, tatatatatati. » Et puis, mais en fait, tout ça n'explique pas grand-chose. Et ce qu'on peut peut-être essayer de demander à la littérature, c'est de zoomer un peu là-dedans. Et c'est ça que j'appelle réfléchir, en fait. C'est juste d'essayer de grossir un peu l'affaire, de rentrer dans les détails. Et donc, ça demande effectivement un effort au langage pour aller plus loin que d'habitude. Voilà. Donc, plus de mots, ou une autre manière de manier les mots, ou une déception par rapport aux mots, ça dépend. Duras, c'est plutôt du côté de la déception par rapport au langage. Moi, j'ai quand même une envie, c'est peut-être ça que j'appelle plus généreux, mais au sens... j'ai une croyance, quand même, c'est ce qui me met dans une génération, je pense, postérieure à celle du nouveau roman aussi, c'est qu'on recroit, quand même, dans l'idée que le langage peut apporter, élucider, proposer pas des réponses, mais des espaces de réflexion quand les problèmes de la réalité sont complexes. Voilà, en fait, c'est très simple, hein. Alors moi, je sais que pour ça, c'est tout bête, mais j'utilise beaucoup la métaphore, par exemple, beaucoup l'adjectif, la comparaison, parce que ce sont des moyens de mieux saisir, de mieux sentir de mieux comprendre ce qui nous arrive, quoi. Voilà, ce qui nous arrive en général, partout, dans toutes les situations. Alors, qui plus est, dans des situations un peu tragiques. Ouais, un peu...
Ce qu'on a regardé aussi, c'est la manière dont dans l'écriture aussi, la manière dont le discours est rapporté. C'est là aussi que c'est très proche de Duras, qui est déjà inventé par Zola. Hein, avec, Zola commence des choses comme ça, avec on rapporte le discours et puis ça part dans le récit, en fait. où on n'arrive même plus à savoir où est le...
C'est-à-dire qu'il s'agit aussi, de mettre en scène... dans l'écriture, dans les moyens narratifs, l'absence de vérité. C'est-à-dire que la réalité est une construction. On est là aujourd'hui, on est 50 dans cette salle, on pense avoir vécu tous la même scène. Si on la ramène à l'ordre social du monde, entre 11h et midi, une classe de seconde avec ce professeur et son écrivain ont discuté. Vous voyez, on pourrait faire la petite notule dans la République de... Je sais pas quel est le journal du coin. La Nouvelle République, peut-être
C'est Ouest-France.
Ouest-France, voilà. Donc on imagine bien un journaliste de Ouest-France venir et rapporter en 10 lignes qu'est-ce qui s'est passé ici pendant 1h30. Mais la réalité sensible, profonde, émotive... de ce que vous, chacun, celui qui est parti dans sa tête, qui n'a pas du tout écouté ce que j'ai dit, celui qui est très ému par ce que je dis, moi-même qui suis là en train de me dire qu'est-ce que je fous là en train de leur parler de ça, etc., etc. Tout ça, c'est la vérité de ce qu'on est en train de vivre. Et ça, elle n'est pas dans Ouest-France, celle-là. Elle pourrait être dans un roman. Et on pourrait faire un roman de 50 pages, au moins, sur uniquement l'heure et demie que l'on passe ensemble, avec chacun ce qu'il a vécu, perçu, etc. Là, on serait peut-être obligé d'en passer par des questions narratives. C'est-à-dire, qui raconte? Est-ce qu'on raconte, est-ce qu'on commence à imaginer qu'on dit machin a pensé ça, mais machin a dit ça, machin. Bon. Et là, on commence à se poser des questions de c'est quoi la vérité du monde qu'on partage, ou qu'on partage pas, justement.
C'était la deuxième partie de la rencontre avec Tanguy Viel, l'auteur de La fille qu'on appelle, dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire. Au lycée Estournel de Constant, à La Flèche.